Donc je reprends. On a vu l'introduction et dans cette introduction, on a vu beaucoup de choses, mais je voudrais juste pour préciser vers où on va. Hein, on a surtout vu que la terre gisait sous le mal, sous le malin, depuis la désobéissance de l'homme. Le péché domine sur cette terre. Et c'est fondamental de partir de cette base-là. Parce que tout au long des 12 étapes, on va voir l'influence du péché dans la vie de l'être humain. Et si on n'a pas conscience de ça, alors nous aurons du mal à avoir des relations apaisées les uns avec les autres. Donc première chose, bien comprendre que le mal domine sur cette terre. Vous êtes d'accord avec ça? Le problème, c'est que le péché nous a tous affectés et infectés. Nous ne sommes pas sortis indemnes de tout ça. Nous sommes nés dans le péché. Et ça a eu des conséquences qu'on appelle des dysfonctionnements. D'accord ? Et ces dysfonctionnements, où est-ce que nous les voyons en premier ? Eh bien, c'est dans nos relations, les uns avec les autres. Ensuite, on a vu un petit peu ce que Jésus a eu comme conversation avec le docteur de la loi, hein, dans Luc 10, quand le docteur de la loi lui a demandé « Mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Il n'a pas dit « Que faut-il faire pour être sauvé ?» parce que la réponse n'aurait pas été la même. Mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie maintenant. Maintenant, quand nous appartenons à Dieu, nous avons la vie éternelle maintenant. Oui, nous sommes sauvés, mais nous bénéficions tout de suite de la vie éternelle. Et c'est important de comprendre ça, parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est Zoé. Et c'est une puissance. Et on a besoin de la vie de Dieu pour pouvoir contrecarrer les effets du péché dans notre vie. Voilà le tableau un petit peu qui est dressé et qu'il faut avoir toujours en conscience. Puisque nous sommes des êtres de relation et que nous sommes toujours en relation les uns avec les autres et que la qualité de notre vie va dépendre de la qualité de nos relations, c'est simple, il faut que l'on fasse attention à nos relations. Et comprendre que les gens que nous allons avoir en face de nous, mari, femme, enfant, parents, frères et sœurs, les frères et sœurs de l'Église, eh bien, nous avons en face de nous des gens qui ne sont peut-être pas restaurés dans le sens d'être enseignés sur le danger qu'il y a à chaque fois qu'on est en relation, le danger de se blesser. Nous-mêmes, nous arrivons ici au vase restauré et nous arrivons avec des blessures. Et ces blessures-là, eh bien, il faut qu'ils soient guéris. Parce que nous n'arriverons pas à avoir des relations apaisées, des relations de paix avec les autres, si nous-mêmes, nous ne sommes pas guéris. Et donc, ce soir, l'étape 3, on va parler de ça, de mettre en lumière quels ont été nos dysfonctionnements, quelles ont été nos blessures, de façon à ce que dans une prochaine étape, dans un second temps, on puisse amener ça à Dieu et que Dieu nous guérissent. Et si nous sommes guéris, alors nous guérirons les autres. Amen. Donc voilà un petit peu le tableau, c'est de reconnaître, et on l'a vu dans l'étape 1, reconnaître que nous sommes impuissants face à ce qui nous est arrivé. Hein? On a tous subi des choses désagréables, nous avons tous été blessés de différentes manières, mais on a tous été blessés, et on a vu que par nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en sortir, que sans arrêt, on répète les mêmes choses. Et donc, on est arrivé à l'étape 2, où là, on a décidé de remettre notre vie à Dieu, qui est le seul qui peut nous guérir, qui est le seul à avoir la puissance d'enlever ces dysfonctionnements, de guérir nos blessures, pour que notre cœur soit vraiment purifié, que nous ne subissions plus ces dysfonctionnements et de façon à ce que nous puissions, dans l'avenir présent, l'avenir immédiat, aborder nos relations les uns avec les autres avec apaisement, avec la paix, avec la sérénité. Puisque c'est la clé pour être heureux sur cette terre. La clé sur cette terre pour être heureux, c'est d'avoir des relations qui ont été soignées. Et qu'on va préserver. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est l'importance des relations dans notre vie. Pourquoi ça? Parce que c'est l'endroit où nous sommes le plus fragiles. C'est l'endroit où l'ennemi va mettre tout le paquet pour nous blesser, pour qu'on soit blessé, et pour qu'on puisse briser les relations. Et vous le voyez dans vos familles, vous le voyez autour de vous, dans les couples, dans les divorces, les familles qui s'entre-déchirent, les églises qui se déchirent. Ça commence par la relation. Ça commence par briser la relation. Et donc, si on n'a pas ça en tête, si on n'a pas conscience de tout ça, eh ben, on se fera piéger et encore piéger. Et on fera le jeu de l'ennemi. Donc, il est important d'avoir ça toujours à l'esprit, parce que ça va jalonner notre vie. Ça va être présent dans toute notre vie. Dans votre vie de couple, dans votre vie avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec les frères et sœurs de l'Église, au travail, nous avons des relations partout. Et chaque jour, c'est un défi à relever pour ne pas briser les relations. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, parce que Paul avait tout compris. Hein, Paul, il a dit, on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais on a à se battre contre les autorités impures qui sont derrière tout ça. Donc c'est à nous de comprendre tout ça, et ça nous amène à avoir une autre attitude dans nos relations. On va voir ce soir, hein, on va commencer à y toucher un petit peu, avoir cet esprit de miséricorde entre nous. Pourquoi ? Parce que si on ne voit pas ça avec de la miséricorde, alors on va s'attaquer mutuellement, on va se mordre, comme dit Paul dans Galates. Si vous vous réunissez pour vous mordre, eh ben vous allez tous mourir. Donc on va voir un petit peu tout cet arrière-plan qu'on ne voit pas toujours, parce qu'on n'est pas toujours en pleine conscience de ce qui se joue spirituellement. Mais en réalité, tout ça est spirituel. Et que derrière nos conversations, derrière les choses qui commencent à partir mal, des quiproquos, derrière des choses où on a mal compris, derrière tout ça, il y a l'ennemi. Et ce que veut l'ennemi, c'est briser nos relations. Amen. Donc ce soir, on va regarder un petit peu comment faire cet inventaire, parce qu'on va partir de nous. Puisqu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas leur demander d'être comme on voudrait. La seule manière où on peut améliorer nos relations, c'est en travaillant sur nous. Okay? C'est la plus sûre. Sinon, on travaille sur nous, qu'on se guérit et qu'on aura les outils pour pouvoir parler avec les autres sans briser la relation, ben, on pourra dire qu'on aura fait un bon bout de chemin par la grâce de Dieu. Donc, on entame ce chemin ce soir. C'est un chemin qui va durer 15 jours. Ou la semaine prochaine, on restera sur ce sujet-là, mais on aura un autre sujet qui s'appelle « Revoir notre histoire ». Et je vais vous laisser 15 jours et vous demander de travailler avec le questionnaire que vous prendrez ce soir ou que vous recevrez sur WhatsApp et qui va vous aider à élaborer un petit peu votre vie. Revoir votre vie et voir un petit peu où vous avez connu des problèmes qui ont entraîné ces dysfonctionnements. Ok ? Bien. Nous sommes transformés par la puissance de Dieu. C'est le but de tout ça. C'est que, en fait, ce n'est pas nous qui allons régler le problème, mais c'est Dieu qui va régler le problème. Nous allons lui apporter nos problèmes et on va les reconnaître. Et c'est pour ça que ce travail d'inventaire est important, parce que plus on va amener au Seigneur nos problèmes, plus nous serons guéris. Si nous apportons qu'une partie de nos problèmes, Dieu va guérir une partie de nos problèmes. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est guérir tous nos problèmes. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas là pour... Parce que sinon, on serait des robots, on serait des automates. Et on n'aurait même pas l'inventaire à faire, parce que Dieu le ferait. Mais non, Dieu nous laisse le libre arbitre de notre vie. Et il guérit ce qu'on lui demande de guérir. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder cet inventaire et de lui apporter tous nos dysfonctionnements. Donc, nous sommes transformés par la puissance de Dieu. Éphésiens 3:20 dit ceci, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La puissance de Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Attendons-nous à des miracles dans notre vie. Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, pour l'instant, c'est juste faire un inventaire. D'accord ? Il n'y a pas de guérison pour l'instant. Dieu commence son travail en nous. Mais il faut bien penser que ce n'est pas nous qui allons guérir ce qui se passe en nous. On n'a pas cette capacité-là. C'est la puissance de Dieu en nous qui nous guérit. Nous sommes dans ce moment où nous recevons par révélation ce que Dieu est vraiment pour chacun d'entre nous. Un Dieu d'amour. C'est une révélation. On ne peut pas le recevoir simplement intellectuellement, cérébralement. C'est quelque chose qu'on reçoit par révélation. Amen. Amen. Dieu, un Dieu d'amour, et ce Dieu d'amour, il veut le meilleur pour toi. C'est une clé, c'est une base. Si tu n'es pas persuadé que Dieu peut faire et que Dieu veut le meilleur pour toi, alors il va te manquer des armes. La foi va nous amener à croire que Dieu peut et que Dieu veut, de façon à ce que nous puissions nous abandonner complètement. Parce qu'on le verra au fur et à mesure des étapes. Changer d'habitude, c'est pas facile. C'est pas facile de s'abandonner à Dieu, de changer notre manière de faire, de changer les habitudes que nous avons en contrôlant les choses, en ne nous laissons pas aller, en abandonnant pas toute notre vie à Dieu. C'est pas évident. Mais la base, c'est de comprendre que Dieu veut le meilleur pour nous et qu'il peut le faire. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle agit en nous, mais c'est à nous de la saisir. La parole de Dieu nous connaît parfaitement. Dieu nous a créés. C'est à nous de saisir les paroles de Dieu. Le danger étant de se faire avoir par la routine et de ne plus considérer sa puissance, de ne plus être vigilant à regarder nos actions, nos paroles, nos comportements. Quand on fait la restauration, on apprend une chose, c'est qu'on arrête de regarder aux autres et on regarde à nous-mêmes. On regarde à nos paroles, on regarde à notre comportement, on regarde à notre façon d'agir. C'est important parce que c'est comme ça qu'on va changer. C'est comme ça qu'on va être transformé. C'est en regardant par rapport à la parole de Dieu comment j'agis, comment je parle, comment je me conduis. Et il y a une prise de conscience à chaque fois pour avoir cette humilité et de dire « Seigneur, je n'ai pas été bon. » Même si l'autre a peut-être eu tort d'agir comme ça, même si l'autre a peut-être eu tort de parler, ça, on ne peut rien faire là-dessus. Par contre, nous, on peut demander à Dieu d'agir sur nous. Amen. Bref, il faut qu'on mette le pilote automatique en pause. Vous savez qu'on a tous un pilote automatique. C'est-à-dire qu'on dit les choses de manière automatique. On pense de manière automatique. On parle de manière automatique. Nous sommes des êtres d'habitude. Et les choses se mettent en place depuis qu'on est petit. Et quand on vient à la parole de Dieu, les choses sont remises en question. Mais pour cela, il faut débrancher notre pilote automatique. Il y a plein de choses que l'on fait de manière automatique. De généraliser sur des gens, sur des catégories de gens, nos modes de pensée. Depuis des années, on pense comme ça. Donc, on continue de penser comme ça, sans se poser la question, mais est-ce que c'est ce que dit la parole de Dieu ? Donc, on a besoin, pour être transformé, déjà de débrancher notre pilote automatique. Venir écouter la parole de Dieu en ayant soif de sa révélation pour moi. Grandir, être transformé, c'est refuser la routine. C'est refuser la banalité. À chaque fois que vous venez écouter la parole de Dieu, venez avec un cœur qui a soif. Venez pour être transformé. Venez pas avec un état d'esprit de dire « Ok, je viens à l'église, mais je sais ce qu'il va dire. Il va causer, je connais. Ça fait 20 ans, je connais. » Non. Soyez dans l'humilité. Dieu parle à ses enfants. Amen. Soyez toujours, ne jamais être blasé de la parole de Dieu. Toujours venir pour dire « Seigneur, tu as une parole pour moi ce soir. » Et c'est à nous de la saisir, cette parole-là. Quand nous écoutons un serviteur de Dieu prêcher, si nous ne recherchons pas cette révélation de Dieu au milieu de toutes ces paroles, nous risquons de recevoir une compréhension intellectuelle des Écritures et de leur interprétation. Et on a vite fait de devenir des religieux. On a très, très rapidement, la routine peut prendre le dessus et on ne voit pas pourquoi on vient parce qu'on écoute toujours les mêmes choses. Ah oui, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne va pas changer la Bible. Mais ce qui est important, c'est notre attitude face à la parole de Dieu. Cela devient une connaissance cérébrale si on ne fait pas attention. Il y a trois choses qui peuvent se passer. Nous sommes facilement enclins à l'excitation ou à l'émotivité. Ça, c'est surtout pour ceux qui arrivent au Seigneur. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'émotivité. D'accord ? Mais c'est très cérébral. On n'est pas encore arrivé au cœur. Et donc là, on est excité, et puis il se passe quelque chose, pam ! Et on ne voit plus la personne. C'était cérébral. Donc il y a un risque d'interpréter les choses que de manière cérébrale, de ne pas être encore rentré dans cette communion avec le Seigneur. Nous pouvons être liés par l'intellect. Elle ne change rien en profondeur. On n'a pas ce temps de communion avec le Seigneur. Et on prend les choses juste intellectuellement. Mais ça, c'est humain. Ça reste humain. Ça n'a pas de profondeur. Pour avoir cette profondeur, il faut avoir cette recherche de communion avec le Seigneur. Que le Seigneur, il me parle à moi, son enfant. Il me connaît. Il sait de quoi j'ai besoin. Donc je viens, mais dans une relation qui est une communion avec le Seigneur. Je communie avec lui. Et là, la réunion prend une autre dimension. Le moment où on est dans cette lecture, dans cette prédication-là, prend un autre moment, puisqu'elle est pour moi, cette prédication. Souvent, on a l'impression de dire, tiens, c'est dommage qu'il n'est pas là ce soir, parce que ça lui aurait fait du bien. Mais c'est pour nous, c'est pour ceux qui sont là que ça fait du bien. Et enfin, le risque, c'est que la parole de Dieu devienne banale, nous nous y habituons et elle ne produit plus son effet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience parce que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Donc si nous voulons être transformés, parce que nous allons être transformés si nous le voulons, nous allons être transformés toute notre vie. Hein, ce n'est pas je fais le vase restauré, 12 étapes et puis après, ça y est, je suis restauré. Ça serait trop beau. Mais non. Après 15 ans de vase restaurée, je suis toujours en train d'être restauré. Et je sais que j'y serai jusqu'à la fin de ma vie. Mais qu'est-ce qui me change? Qu'est-ce qui permet que je sois restauré et transformé? C'est la parole de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et c'est juste en avoir conscience. C'est juste un état d'esprit quand je viens à l'église. Je viens, Seigneur, ce soir tu me parles, tu viens changer des choses en moi. Et là, vous allez voir l'enthousiasme que vous allez avoir pour venir à l'église. Vous n'allez pas traîner les pieds. Là, c'est comme si que vous vous imaginez, notre papa a quelque chose en réserve pour nous.
Amen.
Amen. Et nous venons écouter la parole, c'est pour moi ce soir. Il faut être enthousiaste, les frères et sœurs. Il ne faut jamais perdre l'enthousiasme. Si vous perdez l'enthousiasme, vous allez perdre votre flamme. Il faut être passionné pour le Seigneur. Alléluia. Jésus bâtit son Église sur un fondement solide, la révélation de sa parole. Il dit qu'elle sera fondée sur sa parole révélée, pas simplement sur des versets mémorisés, pas seulement sur ma présence aux réunions, pas seulement à travers les différentes tâches que je peux faire dans l'Église, mais surtout sur l'amour de sa parole. C'est ça qui va faire la différence, sur une soif d'être transformé par sa parole.
Amen.
Et attention, je ne minimise pas le reste. Le reste est bien. Hein? Ça va, ma soeur? Le reste est bien. Ma présence aux réunions, mes tâches, tout ça, c'est bien. Mais attention, attention. Ce n'est pas ça qui va nous garantir de conserver cette flamme et cette passion. Amen. Pour le Seigneur. La révélation de sa parole nous amène à nous regarder chaque jour comme dans un miroir et à nous sonder. C'est une transformation en continu afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus, afin que nous soyons de plus en plus épanouis, que nous goûtions de plus en plus à sa paix et à son amour. Voilà le but. Voilà le but. Le but, c'est que nous soyons heureux, que nous soyons épanouis. Il n'y a pas d'autre chose. Bien sûr que nous sommes sauvés, mais on peut être sauvé et ne pas vivre de manière épanouie. Vous voyez ce que je veux dire ? Être des chrétiens malheureux, sauvés mais malheureux. Mais quelle tristesse ! Quelle désolation par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Ce Jésus qui nous offre une puissance de vie dès maintenant, qu'on peut être heureux sur cette terre. Mais saisissons cette vie, saisissons cette vie. Mais cette vie, elle a un coût, elle a un prix. Cette vie, elle va dépendre de ta passion pour le Seigneur. Tout est là-dedans. C'est ça que le vase restauré, si vous le mettez en application dans votre vie tous les jours, vos relations vont changer. Je vous assure, vos relations vont être transformées. Et si vos relations sont transformées, c'est votre vie qui est transformée. Amen.
Excuse-moi, Bertrand, maintenant j'ajoute relation et communion.
Ah oui. Toi, t'es venu dimanche à l'église, toi. T'as,
oui.
t'as écouté le jeudi, toi.
Oui.
Communion, pas seulement relation. Enlever les dysfonctionnements de notre vie afin que l'on puisse aimer les autres comme ils sont. L'amour de Dieu devient notre fil conducteur.
Amen.
On accepte les autres comme ils sont. Mais pour cela, il faut être guéri. Pour cela, il faut qu'on ait fini avec nos blessures. De façon à ce que les autres, quand ils vont faire des gaffes, quand ils vont être maladroits, quand des fois même on peut aller jusqu'à être méchant, ça arrivera. Même nous, on peut être méchant. Mais en tout cas, pour ce qui vient des autres vers nous. Eh bien, comme je vous ai dit la dernière fois, prenez une plaie. Si elle est guérie, là, mais on peut toujours frotter dessus, mais il n'y a plus rien. Comprenez ? Mais si on n'est pas guéri, et que l'ennemi connaît ça, cette blessure-là, et qu'il se sert de l'un, il se sert de l'autre, et que ça vient appuyer là où ça fait mal, mais vous allez sauter au plafond. Et vous ne serez pas dans la paix. Vous n'arriverez pas à vous contenir. Alors peut-être une fois, hein, du style, faut pas que je m'énerve, il faut pas que je m'énerve. Non, garde ton calme, tu es chrétien. Garde ton calme, tu es ci, garde ton calme, garde ton calme. Mais ça tient qu'un petit moment, ça. Comme la cocotte minute. Mais au bout d'un moment, ça explose. Alors quand ça explose, il aurait peut-être mieux même peut-être s'énerver avant parce que c'est encore pire. Donc, la clé, elle est là-dedans. La clé, elle est là. Guéris de façon à ce que les autres, quand ils me disent des choses qui auparavant m'auraient fait sauter au plafond, ne me font plus sauter au plafond. Et là, je vois la grâce de Dieu. Et là, je dis, Seigneur, tu m'as transformé. Seigneur, waouh! Avant, je me rappelle, mais là, mais l'autre, mais je lui aurais rentré dedans. Je l'aurais serré par le callback.
C'est quoi ?
Comme ça, je lui aurais fait. Et aujourd'hui, je le regarde avec amour.
Amen.
Et je dis, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Et en tout cas, moi, j'ai la... Vous ne vous rendez pas compte le privilège qu'on a d'être guéri par le Seigneur.
Amen.
Et qu'on n'a plus ce problème-là. Je veux dire, ça, c'était réglé par le Seigneur. On n'est plus esclave de notre passé. On n'est plus esclave de nos blessures. Mais quelle grâce !
Amen.
Amen. Ce n'est plus la peur de nous blesser les uns les autres qui conduit notre vie. Souvent, c'est la peur qui conduit nos relations. La peur de se blesser. La peur d'être blessé. On vit comme sur des œufs. Oui. Attention, marcher sur des œufs. Hein? Mais on n'est pas libre ! L'amour bannit la peur. On ne peut pas vivre tout le temps sur la peur avec l'autre. Le mobile de nos actions, de nos paroles, de nos comportements, ça doit être l'amour de Dieu. C'est ça la vraie liberté. C'est ça le vrai bonheur. Qu'est-ce qui guide ma vie ? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'a sauvé. L'amour de Dieu m'a guéri. Et c'est l'amour de Dieu qui conduit ma vie maintenant.
Amen.
Ce n'est pas du baratin tout ça. C'est sérieux. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui change une vie, qui transforme une vie. Et ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas des autres. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de la réaction de l'un ou de l'autre. On n'est plus à dire, mais tu as vu comment il m'a parlé. Mais c'est de sa faute. C'est fini tout ça. C'est ma responsabilité. C'est ma vie. Et c'est ma responsabilité. Et Dieu m'a donné la paix et je protège cette paix. Dieu a purifié mon cœur, et bien je protège ce cœur. Et ça, c'est à nous. C'est notre responsabilité. Dans Éphésiens 5, 1, à propos de l'amour de Dieu, Paul dira ceci. « Soyez tous les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Vivons dans l'amour. Si nous vivons dans l'amour, je peux vous dire une chose, l'ennemi, il n'a plus aucune arme contre nous. Il est désarmé. Il ne peut rien faire contre l'amour. Rien. Si vous mettez l'amour en avant, il ne pourra rien faire. Vous êtes blessé par un frère, aimez le frère. N'aimez pas ce qu'il a dit, mais aimez le frère.
Ça fait le bouclier.
Ouais. Il y a une différence avec une personne. Une personne, quand elle dit quelque chose, elle n'est pas forcément ce qu'elle a dit. Il faut faire une différence entre la personne et ce qu'elle dit. Ce n'est pas la même chose. Hein? Si, par exemple, notre femme dit des mauvaises choses et que nous, on l'associe à ce qu'elle dit, ça sera difficile de continuer à l'aimer. Si un enfant, il nous dit des choses méchantes et qu'on l'associe à ce qu'il dit, ça sera difficile d'aimer notre enfant. On va l'étiqueter. On va l'étiqueter, cet enfant-là. On va lui dire, de toute façon, toi, tu es un bon à rien. De toute façon, toi, tu es méchant, de toute façon. Tu es... Et on l'associe à ce qu'il est. Non, on est des parents adultes. On sait très bien que l'enfant, il dit des choses, mais que ce n'est pas forcément lui, ça. Ben, ce qu'on fait pour nos proches, eh ben, on le fait pour tous les êtres humains. Seigneur, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Et c'est ça, vivre dans l'amour. Alors, cette troisième étape, c'est regarder à notre vie. C'est l'heure d'un premier bilan. Nous avons procédé, sans peur, à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Il faut du courage pour regarder à notre vie, à ce que les autres nous ont fait subir et à ce que nous avons fait subir aux autres. Ça va dans les deux sens. L'inventaire est dans les deux sens. C'est ce que les autres m'ont fait subir, mais moi aussi, ce que j'ai fait subir aux autres. Il faut regarder dans les deux sens. Eh oui. Hein? Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Il faut reconnaître. Une blessure ne peut guérir que si elle est soigneusement nettoyée. Cette étape constitue une opportunité d'explorer plus en profondeur les côtés sombres de notre personnalité. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qu'on a mis sous le tapis et qu'on ne veut pas voir. Et là, cette étape-là, c'est une étape de vérité. C'est une étape d'authenticité, où on va prendre son cahier, on va prendre du temps dans la prière, et vous pouvez vous aider du questionnaire que je vous ai donné de l'ensemble des réflexions à apporter. Et là, vous pouvez revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que ça va être l'occasion de nettoyer tout ça. C'est le grand ménage, comme on l'a vu l'autre jour. C'est le grand ménage de notre vie. C'est des squelettes, peut-être, qui sont dans le placard et qu'on va sortir du placard. On veut une maison propre. On veut une maison nettoyée. On veut un cœur pur. Et c'est après, on verra dans les autres étapes, que c'est plus que de l'entretien. Mais le gros travail aura été fait. Donc c'est pour ça que cette étape-là, elle est très importante. Plus vous en prendrez conscience, et moins vous serez porté à retourner à vos anciennes habitudes ou à retomber dans vos vieux travers. Considérez cette étape comme le grand ménage de votre vie. Au fil des mois et des années, nous amassons une quantité de blessures, de dysfonctionnements et de non-pardon. Cette étape nous amène à affronter la partie cachée de notre personnalité, de notre personne. Tout le monde, on l'a vu la dernière fois et on va le revoir un peu ce soir, on l'a vu avec la fenêtre de Johari. On a vu les carreaux de la fenêtre de Johari. Okay? Personne n'y échappe puisque c'est l'être humain est constitué comme ça. Mais nous sommes là pour guérir. Nous sommes là pour être guéris par le Seigneur. Et la première chose à faire, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître là où le péché nous a touchés. De façon à ne plus laisser l'avantage à l'ennemi. Si c'est guéri, l'ennemi n'aura plus de prise. Si ce n'est pas guéri, l'ennemi aura toujours cette prise-là. Les blessures, les colères, les injustices, le sentiment de n'avoir jamais été aimé, de ne pas nous aimer nous-mêmes, mais aussi parfois le côté méchant qui nous habite, les pulsions, les désirs malsains, inavouables, la honte, de cette partie cachée de notre personne. Voilà ce qui est en jeu. Voilà ce qui est en jeu. C'est un moment d'honnêteté. C'est un moment où on clarifie les choses avec le Seigneur et on fait un point sur notre vie. Et on regarde ce qui ne marche pas encore comme ça devrait marcher. Toutes ces choses cachées en nous se manifestent souvent sous la forme de réactions inexpliquées. Perte de maîtrise de soi, énervement, irritabilité. C'est des manifestations de ce qui ne va pas encore en nous. Pourquoi il m'énerve ? Pourquoi il m'énerve autant ? Pourquoi il m'irrite, lui ? Il y a quelque chose à aller chercher derrière tout ça. Si je veux être en paix, si je ne veux plus dépendre que ma paix, je la garde, et que ma paix n'est pas remise en question par l'attitude de l'un ou de l'autre, que je ne suis pas un baromètre, il faut que j'aille au fond des choses. De façon à ce que quand ça va se reproduire, ça n'a plus d'effet sur moi. Il ne m'énerve plus. Il ne m'irrite plus. Quelle victoire ! Quelle grâce ! De pouvoir de ne plus être énervé par le comportement des autres. Waouh ! Quelle victoire ! Et c'est possible par la grâce de Dieu. Perte de maîtrise de soi, énervement, irritabilité, colère, et même parfois de la rage envers certaines personnes. Elle se manifeste aussi sous forme de rejet, de préjugés, de jugements, de critiques et de médisances. Ça, c'est le tableau de nos relations basiques, le plus simple, là où ça a le moins d'impact. Ça a beaucoup d'impact dans la relation, mais ce sont des choses communes. Ce n'est pas des gros dysfonctionnements. Hein ? On n'est pas encore arrivé à un stade de pulsion toxique, d'emprise toxique, on n'en est pas là. Juste des choses simples, l'énervement, l'irritabilité. Dans les couples, on s'énerve. Dans les couples, on est irrité par l'autre. Ça commence par une petite phrase, l'autre enchérit. Et puis ça commence à monter en sauce. Ouais, des petites choses toutes simples. Cette facette de notre nature, elle doit être affrontée et confrontée. Pour que tout cela disparaisse, il faut amener la lumière. Vous ne pourrez pas réussir à vous comprendre sans regarder aux aspects sombres qui vous habitent, en mettant la lumière dessus. De façon à accepter qui l'on est, de façon à faire la paix avec notre humanité, de façon à dire à Seigneur, viens me guérir dans tel domaine, dans tel domaine. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Et pour cela, j'aime bien le psaume 32. Tant que je me suis tue, mes os se sont consumés. Maintenant, quand je le dis à l'Éternel, je dis tout à Dieu, tout. C'est écrit, c'est pas à Erland. Et il dit, je t'entourerai de chants de délivrance, je te montrerai, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi, et puis il nous donne un conseil après, à la fin.
Amen. Avec nous. Ce qu'on verra à travers ces étapes-là aussi, c'est l'importance de guérir et l'importance d'avoir cette base de valeur. Parce que souvent, on s'énerve, on s'irrite, on se met en colère parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. On n'a pas assez d'estime de nous-mêmes. Et ce que l'autre vient dire vient un petit peu abîmer l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et c'est ça qui vient nous irriter. C'est comme si qu'il se permettait d'enlever quelque chose qui nous appartient. C'est comme si on était diminué par le propos qu'il amène ou la réaction qu'il amène. Et c'est une erreur. On verra que notre valeur, l'estime de nous-mêmes, elle est uniquement basée sur Christ. Elle n'est pas basée sur ce que dit l'être humain. En réalité, vous apprendrez que l'être humain, il n'a aucun pouvoir sur nous, en réalité. Il n'a aucun pouvoir. C'est nous qui lui donnons du pouvoir. Mais en fait, il n'a pas le pouvoir de décider qui nous sommes, quelle valeur nous avons. C'est impossible. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui nous donne la valeur. Amen. Mais souvent, on fait une erreur parce qu'on n'a pas été enseigné là-dessus. Et donc, on donne trop d'importance à l'être humain qui est en face de nous. Et il dit des choses et ça vient nous chercher. Mais pourquoi ça vient nous chercher ? Ben, ça vient nous chercher parce qu'on n'a pas conscience que ce qu'il dit n'a aucun pouvoir sur qui nous sommes en réalité. Ce que nous sommes, c'est uniquement Dieu qui peut le dire. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a le juste, qui est le juste juge. C'est lui qui peut dire, tu es une merveilleuse créature. Amen. Tu as été déformé par le péché. Mais je sais qui tu es. C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai connu avant le péché. Et je veux te redonner cette identité que tu avais avant le péché. Et donc, notre identité, elle est en Christ. Mais une fois que vous avez votre identité en Christ, que votre valeur est en Christ, que vous avez été accepté, que tout ce que vous êtes vient de Christ, mais aucun être humain n'a le pouvoir de vous définir. Aucun être humain n'a le pouvoir de dire qui vous êtes. Alors, il peut causer. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais comme on n'a pas cette conscience-là, eh ben on se fait piéger. Et on se trouve irrité, énervé, parce que ce qu'il dit, ça vient nous chercher. C'est juste révélateur. Où est-ce qu'est ta valeur ? Et ta valeur dans ce qu'il dit ? Impossible. C'est un être humain. Le péché l'a touché. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire les choses comme tu es réellement. C'est important de comprendre ça. Parce que si on n'a pas cette assurance-là, eh ben on ne pourra pas être en paix avec l'autre. Parce qu'à un moment donné, l'autre trouvera la faille. Alors, ce n'est pas qu'il cherche la faille, mais spirituellement, on a un ennemi qui nous connaît. Et donc, il va y avoir des paroles acerbes qui vont sortir. Il va y avoir des endroits où ça va venir frapper comme ça. Et là, on ne résistera pas si, d'une part, on n'est pas guéri, et si, d'autre part, on n'a pas conscience que notre valeur, on la connaît. Par la grâce de Dieu, Paul disait, je sais qui je suis. Et je suis une merveilleuse créature. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est la réalité. Je suis une merveilleuse créature. Vous comprenez ça? Ça, c'est la vérité, ça. Vous êtes, chacun de nous, enfants de Dieu, nous sommes des merveilleuses créatures. Et ce n'est pas simplement pour faire joli dans le décor. C'est ce qu'on est appelé à croire vraiment. Dieu nous aime, il a donné son Fils pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, parce qu'on a de la valeur. Parce que nous sommes des merveilleuses créatures. Alors, je ne dis pas que la vie, c'est chargé de te dire le contraire. À travers des expériences, à travers les paroles que tu as reçues de personnes en autorité, de personnes qui étaient là pour t'aimer normalement et qui t'ont fait mal parce que tu étais petit. Aujourd'hui, tu as grandi. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Et aujourd'hui, tu peux dire, plus aucun être humain n'aura le droit de me définir. Amen. Amen. C'est ça la réalité. Et ça, c'est ta responsabilité de ne pas te laisser abuser, de ne pas te laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais on n'est pas obligé de se fâcher pour ça. Juste dire à la personne, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, tu sais qui je suis, moi ? Une merveilleuse créature. Mais c'est vrai ! Elle va rigoler, la personne, parce qu'elle ne comprend pas. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Mais je dis, mais c'est ça la réalité. La vérité, c'est que tu peux dire ce que tu veux, je suis une merveilleuse créature. Amen. C'est ça la vérité? Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? J'ai une merveilleuse créature. Amen. Donc le travail pour qui nous attend, il va se faire principalement sur deux carreaux. D'accord? Il va se faire sur le deuxième carreau et sur le troisième carreau. Alors vous allez voir, le public est un petit peu différent. Hein? Sur le deuxième carreau, eh ben, je vais peut-être avoir besoin de poser des questions à mes proches. À ceux qui m'aiment, allez pas voir des gens qui vous aiment pas, hein, à ceux qui m'aiment, pour leur demander, qu'est-ce que tu penses de mon comportement en général, qu'est-ce que tu trouves qui devrait être amélioré dans ma façon de parler, dans ma façon d'être. Mais attention, hein, si vous faites ça, il faut être prêt à l'entendre. Ah, il y a moins de candidats là ou quoi là? Il faut être prêt à l'entendre, parce que ces gens-là, même ces gens-là vont peut-être avoir peur de vous le dire. Ces gens-là vont dire, attention, si je lui dis, ça va mal se passer. Non, vous lui dites, je suis une merveilleuse créature, je suis en restauration. N'aie pas peur, tu peux y aller. Hein? Parce que, ben oui, mais pourquoi? Parce que, On est aveugle à cette réalité-là. Et si on veut changer, il faut que cette partie que nous, on ne voit pas, il faut la mettre à la lumière et puis l'amener au Seigneur. C'est ça le vrai changement.
Je peux faire un
petit... Oui, vas-y. Oui, vas-y.
Et donc, J'ai commencé à m'énerver parce que je ne me voyais pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait le petit coulot? Il me dit, demande Alain, demande ma fille, demande ceci, demande cela. Hein? Je me suis tue parce que j'avais pas vu qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient là au même restaurant que nous et qui étaient au vase restauré. Et là, je me suis rassise. C'est bon, je vais demander, je vais demander. Mais j'étais très surprise et travailler dessus, c'est très dur. Ouais. Seigneur, la aide à moi. Ouais. Je ne connais pas si ma fille ni encore et encore et encore de m'améliorer. Voilà. Ah, merci, pasteur. Merci pour ton encouragement.
Non, mais il y a une réalité. Oui, il y a une réalité que si on ne l'aborde pas avec honnêteté, il n'y aura pas de changement. Je suis désolé de le dire, il n'y aura pas de transformation. Hein, vous pouvez être chrétien pendant 70 ans et si vous voulez, vous ne changerez pas. D'accord. Mais il faut être honnête, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut changer, si on veut être un plus pour l'autre, si on veut que nos conversations soient apaisées, il faut mettre tout à nu.
Amen.
Il faut mettre tout à nu.
D'où le psaume 32.
Oui. Les conversations, regardez, mais oui, mais dans les couples, prenez l'unité la plus petite et où il y a le plus d'intimité. Prenez le couple. Eh bien, forcément que l'autre vous dit des choses du style... Mais pourquoi t'es toujours comme ça? Pourquoi c'est toujours comme si? Pourquoi c'est... Vous l'entendez, ça, hein? D'accord? Eh bien, il faut le prendre en compte. Encore une fois, ça ne vous enlève rien. Ça ne vous enlève rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, si vous êtes dans le piège que c'est un reproche, c'est une critique, donc ça vient enlever de ma valeur. Mais vous êtes foutus. Il n'y aura jamais de restauration. Il faut accepter le fait. Non, je suis une merveilleuse créature qui a été touchée par le péché. Ça doit changer parce que je peux être encore meilleur. C'est ça la réalité. Et donc, quand vous dites à l'autre, bon chéri, on arrête de jouer, on se pose 5 minutes, un petit resto, un truc sympa, quoi. Faut qu'il y ait une ambiance quand même, faut qu'il y ait un truc bien, quoi. Hein. Parce que si déjà on vient de se disputer, c'est pas le moment de mettre ça sur la table parce que là, ça va être chaud. Mais disons qu'on est dans un cadre agréable et on se dit, bon, là, c'est, chérie, par rapport au vase restauré, là. Bon, allez, je me lance, là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change en moi? Hein? Là, il faut entendre. Et ça va peut-être prendre une vie, mais c'est pas grave. Au moins, il y a un beau challenge à relever, il y a un beau défi à relever. Hein? Mais c'est pour que l'autre soit mieux. Mais attention, celui qui dit ça, il y a un retour de bâton. Parce que ça va... L'autre va dire la même chose. Et ça va dans les deux sens. Parce qu'on a tous des problèmes. On a tous des dysfonctionnements. Est-ce qu'on est prêt à jouer la vérité, l'authenticité, ou est-ce qu'on met la poussière sur le tapis et puis le couple, il fait comme il peut et puis il avance. Vous savez à quoi ça finit, ces couples-là? Ça finit en colocation. Ça finit en colocation. C'est pas un couple où les gens ne vont pas être sauvés. On ne remet pas en question tout ça. Mais c'est un couple qui était parti à la base amoureux. Et puis au fil du temps, on ne dit plus rien. On ne parle pas de ça. Okay, on n'en parle pas. Bon, on n'en parle pas. Et puis on finit en colocation. Chacun a trouvé son petit coin. Toi, tu ne me parles pas de ça. Et toi, tu ne me parles pas de ça. Ok, on ne parle pas. Et puis voilà. Et chacun connaît son territoire. Chacun connaît les endroits où il ne faut pas aller. Et puis, au bout de 40 ans, 50 ans, ça roule. Pourquoi pas? Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je ne pense pas qu'on a été appelé à ça. Je pense qu'on a été appelé à être amoureux. Amen. Et comme le bon vin, on se bonifie avec le temps. Mais c'est aussi une volonté. On est chrétien. On est appelé à marcher en sainteté. Donc, on est appelé, la sainteté, c'est une marche où l'impact du péché a de moins en moins d'importance dans ma vie. Donc, tout ça, vous voyez, ça remet en cause un petit peu comment on voit sa marche avec le Seigneur, comment on avance. Hein? Parce que le problème, c'est que les dysfonctionnements que j'ai dans mon couple, ils vont se répercuter ailleurs, et notamment dans l'Église. Et quand vous allez faire des tâches avec les frères et sœurs, ben, vous inquiétez pas, ça va ressortir tout ça. Et le problème des frères et sœurs va ressortir aussi. Hein? Et on va dire, t'aimes bien travailler avec un tel? Oh, mais on ne parle pas. Oh là 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 là. C'est compliqué, hein? C'est compliqué de travailler avec un là. Oh, oh là 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 là. Vous allez entendre ça tout le temps. Ça, c'est la réalité. Et parce que personne ne travaille sur soi. Personne ne travaille sur soi. 20 ans, 30 ans, vous avez le frère et la sœur, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'église, il n'a pas changé d'un iota. Hein. Vous les revoyez après, il y a une sœur qui revient et qui dit, ah, elle est toujours là, la sœur? Oui, oui, et alors? Vous avez l'étiquette qui est dessus. Et alors, elle est toujours comme ça? Ah, oh, elle est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. Et l'étiquette qui est dessus? Il n'y a pas de travail.
C'est pas nous, ça.
Donc avoir la connaissance des autres sur soi est indispensable puisque nous sommes aveugles. D'accord? Après, il faut être capable de l'encaisser. Et je ne dis pas que c'est magique. Hein. C'est un travail, hein. Ça prend du temps. Hein. Ce n'est même pas là les 15 jours qui vont arriver. Là, c'est juste amener à la lumière des choses dont je suis victime du péché et que je ne vois pas l'importance. Et pourtant, j'embête tout le monde, pour ne pas dire un autre mot, j'embête tout le monde. J'embête ma femme, j'embête mes enfants, j'embête mon mari. Ça va? Et ensuite, on va travailler sur ce que nous, on connaît de nous. Et qu'on ne montre pas aux autres parce qu'on a tellement honte. S'ils savaient, s'ils connaissaient mes pensées. Waouh! Vous savez, là, si tout d'un coup, là, sur votre chaise, tout d'un coup, il y a un écran là, qui s'allume, puis que je vois vos pensées, ben, il y en aurait qui partiraient vite fait, quoi, qui auraient honte. Quoi. Mais oui, c'est obligé. Parce qu'on est tous capables de générer des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On connaît nos dysfonctionnements. On sait à quoi on pense. On sait que ce n'est pas bien. On est en bagarre avec ça. Et tout ça, il faut les mettre sur la table pour dire, Seigneur, je ne veux plus ce genre de dysfonctionnement qui m'amène à pécher. Je ne veux plus ce genre de choses. Seigneur, et le Seigneur le fera. Il le fera. C'est extraordinaire. Comment, quand vous présentez un défaut au Seigneur, mais il connaît votre cœur, le problème, c'est que quand vous parlez, il faut que vous soyez en adéquation avec votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui vont le dire avec le cœur, avec la bouche, pardon. Mais en réalité, ils ont toujours du plaisir dans leur cœur à le faire. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, quand tu dis, Seigneur, je ne veux plus de ça, c'est parce que tu le haïs dans ton cœur. Et là, ça va fonctionner. Mais si tu l'exprimes simplement par la bouche, mais que dans ton cœur, tu sais que « Ah, oh, j'aime bien quand même penser à ça. Oh, ça me fait du bien, ça. » Mais ça ne marchera pas. Le Seigneur ne te l'enlèvera pas. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui restent avec leur péché, parce qu'ils n'ont pas haï leur péché. Ils aiment leur péché. Et ils sont là pour dire, vous savez, c'est juste « Oh, je m'endors le soir, une petite pensée. Ah, je ne devrais pas penser à ça. Oh oui, mais quand même, 5 minutes, ça va me faire du bien. Oh, c'est bon. Oh, je pense. Oh, j'aime bien. » Puis après, ça ne s'arrête plus. Parce que la pensée est plus forte que ce que vous pensez. Alors, vous avez cherché la télécommande partout pour arrêter le film, mais il n'y a plus de télécommande. Ça va? Donc, voilà les deux publics à qui nous allons avoir affaire. Demandez aux autres. Alors, les autres, je vous le dis, si vous êtes mariés, les mieux placés, c'est mari, femme, enfant. C'est les mieux placés. Après, il y a les amis. Après, il y a tout ça. Hein. Et vous ne serez pas moins que rien parce qu'ils vont vous dire vos défauts. Hein. Au contraire, ça sera une preuve de courage. Une preuve de courage. Une preuve d'authenticité. Une preuve de vérité. Et nous n'avons de la force que pour la vérité. Le travail commence par regarder à notre enfance. Alice Miller, chercheuse sur l'enfance, explique que les racines de la violence et de la destructivité de l'adulte se trouvent dans les traumatismes et les carences refoulées dans son enfance. On verra la semaine prochaine l'histoire des carences. Regardez à notre histoire, parce que nous avons tous eu des carences dans notre vie. Personne n'a pu y échapper. Tous des carences. Et nous avons tous connu des traumatismes. Alors, plus ou moins grands, plus ou moins importants. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne. Ce que l'ennemi essaye de nous faire croire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ah, toi, t'es pas comme les autres. Toi, t'es pire que les autres. Toi, alors là, toi, mais... Et parce que ce qu'on l'a entendu, on l'a entendu. Quand vous avez entendu des phrases comme, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Oh, mais pourquoi t'es pas comme ton frère? Pourquoi t'es pas comme ta sœur? Mais avec toi, on va... Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Vous étiez le pire du pire. Quand vous avez entendu ça, vous avez fini par le croire. Et l'ennemi veut que vous le croyez. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'on est tous à la même enseigne. Le péché nous a tous touchés. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir un problème. Mais c'est de le résoudre qui est important. Chaque famille a son lot de secrets. Chaque famille a son lot de déboires. Chaque famille a son lot de drames. Les parents pensent qu'en gardant le silence, ils ne communiquent rien à leurs enfants. Mais si les enfants ne comprennent pas toujours les dilemmes et les enjeux de la vie des adultes, sachez qu'ils ressentent tout. Et que ça va créer des traumatismes, même si ce n'est pas conscient. On retrouve même, figurez-vous, des traumatismes de l'enfant, vous savez où ? Dans le ventre de la maman. Incroyable. L'enfant n'était pas né, il était dans le ventre de la maman. Il a déjà connu des traumatismes. Alors vous imaginez ? Et souffrir sans pouvoir mettre des mots ne fait qu'alimenter l'anxiété, la culpabilité et la honte. Vous avez des gens qui traînent une honte, une culpabilité, d'anxiété. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de leur enfance, ça vient de leur famille, mais ils n'ont jamais regardé de près à tout ça. Et en fait, ils vivent avec ça. Ils vivent avec ces émotions-là. C'est comme si les émotions avaient une emprise sur eux et qu'ils étaient esclaves. On trouvera un temps là pour faire la honte. De toute façon, est-ce que vous compreniez bien l'impact de la honte sur votre identité ? Parce que la honte, c'est une émotion qui est liée à l'identité. Et elle se construit. La honte se construit avec votre identité. Elle va ensemble. Et ça, vous ne le savez pas. Et vous vous construisez. Et il y a la honte qui chemine avec vous. Et cette honte-là, elle va vous définir. Elle va finir par définir qui vous êtes. Et vous allez avoir un mal de chien à vous distancier de la honte. Et ça, c'est une prise de conscience. La honte, en réalité, n'a plus aucun pouvoir sur vous. Mais tant que vous ne l'avez pas mis à la lumière, eh bien, la honte a un droit sur vous. La honte par rapport à votre chemin, par rapport à votre parcours, par rapport à vos expériences traumatisantes, elle a un droit d'identité sur vous. Enfin, elle fait croire. Et vous le subissez comme ça. Il y a plein de choses qui vous bloquent, il y a plein de choses qui vous empêchent d'être vous-même, d'être épanoui, parce que vous êtes dirigé par l'émotion de la honte. On aura le temps de développer ça, mais vous allez être surpris de voir la puissance de cette émotion-là et qu'on s'en débarrasse.
Des fois, on n'arrive peut-être pas toujours à mettre des mots dessus.
Oui.
Donc, c'est difficile là, de chasser cette anxiété.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut revisiter tout ça. Et en fait, on verra ça. L'idée, c'est de recréer un narratif. Alors c'est peut-être un mot un peu barbare, mais en fait, on croit connaître notre histoire. On s'imagine des choses et on a fait un narratif, mais un narratif qui est basé par rapport au péché. En réalité, quand vous vous différenciez du péché et vous dites « Non, ça, c'est pas moi, c'est le péché qui a fait ça en moi. » On fait une distanciation. Et là, on peut repartir sur un nouveau narratif en disant « C'est pas moi. Moi, j'ai été victime de ça. » Ok ? Et donc, je n'ai pas à subir ça. Donc, on revoit le narratif et on l'explique par rapport à la parole de Dieu. Mais quand on explique le narratif par rapport à la parole de Dieu, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Je vous donne un exemple tout simple. Qui a décidé de votre naissance ? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez dire « mes parents ». En réalité, non. Ce n'est pas vos parents qui ont décidé de votre naissance, c'est Dieu. Donc, un exemple comme ça vous permet de revoir le narratif. C'est-à-dire que sans connaître Dieu, mon narratif, c'est mes parents. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, moi, je suis un accident. Mes parents, ils voulaient surtout plus d'enfants. Et donc, moi, je suis né par accident. Ah ben, bienvenue dans le monde des humains. Bonjour, accident. Ça, c'est une belle estime de soi. Je suis né par accident. Je vais pouvoir me construire. Et qu'est-ce que je vais être épanoui ? Parce que je suis un accident. Non mais voyez un petit peu le narratif qu'on va conduire toute sa vie jusqu'au jour où vous lisez la parole de Dieu et vous lisez le psaume 139 et là vous découvrez que c'est Dieu qu'a voulu que vous soyez sur cette terre. Vous étiez déjà dans son cœur avant la fondation du monde. Alors évidemment, ça vient par le cœur, parce que par l'intellect, ça devient un peu plus compliqué. Avant la fondation du monde, j'étais déjà là. Waouh, attends, je n'ai pas tout compris, Seigneur. Donc c'est vrai que c'est une révélation par le cœur. Mais quand vous l'acceptez, cette révélation, là, le narratif, il change complètement. Regardez un peu la puissance. Là, maintenant, le narratif. Mais mes parents, ce n'est pas eux qui ont décidé que je sois là. C'est Dieu. Dieu a décidé que je sois là. Alléluia, je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas une erreur. Mais c'est une révélation. Mais c'est dire, mais Seigneur, waouh, mais quelle grâce. À partir de là, la suite, ben, je vais pouvoir pardonner à mes parents. Ben oui. Parce qu'ils ont été victimes du péché. Donc la faute, elle change. Vous voyez ? Et je vais pouvoir pardonner à mes parents qui n'ont pas su me donner de l'amour parce que j'étais une erreur, mais qu'en réalité, je ne suis pas une erreur, je suis né de Dieu.
Amen.
Alléluia ! Donc mon narratif, il change complètement. Et vous allez voir que vous multipliez ce narratif-là pour toutes les séquences de votre vie, en sachant que c'est le péché qui a créé tous ces traumatismes et toutes ces choses-là, et vous pouvez rentrer dans un processus de guérison et un processus de pardon. Parce qu'on différencie le pécheur du péché. On ne l'associe plus. Il y a le pécheur et il y a ce que ce pécheur-là a été fait ou a fait par la puissance du péché.
Déformé.
Et chaque être humain est déformé. Et ça va nous aider à changer le narratif et ça va nous aider à guérir et à pardonner ce qui nous semblait impardonnable. C'est pas magique, mais c'est un processus. Et parce que grâce à la parole de Dieu, on rentre dans la vérité et on rétablit les choses et on fait un narratif qui est réel. Alléluia! Alors oui et non. Oui et non. Parce que tu sais, même nous, on fait des choses. Tu sais, Paul... Oui, oui, non, mais t'as raison, mais c'est plus vicieux que ça, tu vois. Parce que là, tu prends la parole de Dieu dans Romains et tu as un éclaircissement, tu vois. Parce que c'est Paul qui nous éclaircit là-dessus. Paul, il dit, tu vois, le bien que je crois faire. Tu vois, il croit faire le bien, il fait le mal. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il se retrouve à le faire. Donc, tu vois, la puissance du péché, c'est subtil. C'est même pas avec des gros sabots. C'est que c'est plus subtil que ça. C'est que des fois, tu vas intervenir. Des fois, tu vas faire quelque chose. Parce que, à la base, tu penses que c'est bien. Et le résultat, tu fais des dégâts. Le résultat, c'est pire que si tu n'étais pas intervenu. Et pourtant, tu voulais intervenir. C'était positif. Tu avais une bonne démarche. Tu vois la complexité des choses. C'est très, très subtil. Et là encore, on parle de choses gentilles, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des choses beaucoup plus graves, quoi, tu vois. Ça va ?
Oui.
Vous êtes toujours là ?
Oui.
Ah ben, on continue.
Le Père insiste en fait sa question. Il y a des choses que aussi le Saint-Esprit nous révèle, parce qu'on peut porter, il y a des choses qu'il ne nous révélera pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en face, on voit la réaction. Bon, je prends mon cas avec Chenu, j'ai une façon de parler. Sans que lui, il va me dire que tu es dur, ben je vois sa réaction qui va s'enfermer. Et c'est là, en fait, qu'il faut accepter qu'on a un caractère, qu'on est dur, accepter qui on est, accepter que dans notre manière de parler, ben, on renvoie à la personne quelque chose de difficile, de dur, et qu'il va se retirer. Et puis, travailler sur soi aussi.
Amen.
Après, il y a le Saint-Esprit qui vient et qui amène, qui fait aussi ce
mais
que nous,
elle
c'est
le bien.
Ouais. Ouais. Mais on peut dire que c'est un processus. Non, mais à partir de ce que dit Fabienne, on comprend bien que c'est un processus. Ah, c'est un processus. On est en couple. Bon, à moins qu'on soit un peu malade dans notre tête, mais si on est en couple, c'est pour s'aimer. C'est pour apporter le meilleur de soi-même. Et pourtant, on va se blesser. C'est ça la grosse contradiction. Et pourtant, avec des paroles qui semblaient anodines, On va faire un grand plat avec une, je sais plus comment, avec une queue de morue. On va faire un grand plat pour les invités. Hein, mais un plat de noces, pour un plat de noces. Regardez bien. Alors après, ça, tu vois, ce qu'on a besoin de corriger, ça commence par des choses simples. Mais alors, on a un tempérament impulsif ou on a un tempérament renfermé. Bon, ben vous êtes dans un couple. Alors, on se blesse. tant que c'est pas guéri, on se blesse. On se blesse, mais il y en a un, il a un tempérament fougueux. Hein, on appelle ça rhinocéros. Alors là, tout de suite, il explose. Et là, on se calme. Et puis, il y a l'hérisson. Vous avez l'hérisson qui est là. Alors lui, il prend une blessure, et lui, il s'enferme, il sort ses pics, et tu ne peux plus approcher. Tu vois, c'est les deux comportements humains qu'on va rencontrer. Rhinocéros et hérisson. Tu vois, et dans les couples, on va sans arrêt, tant qu'on n'est pas guéri, on va sans arrêt sortir le hérisson ou sortir le rhinocéros. Et pourtant, à la base, on est ensemble pour être bien, pour s'aimer. Donc on a besoin de corriger tout ça. On dit, Seigneur, mais pourquoi ce tempérament-là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment ça se fait que je me renferme tout le temps sur moi? Dès que je suis touché par une parole, dès qu'on vient toucher à ça, hop, mais ça, c'est à mettre à la lumière. On ne peut pas passer toute notre vie en étant dépendant de notre passé. Notre passé, c'est notre passé, mais notre passé, il n'a pas à diriger toute notre vie. Je n'ai pas à être hérisson toute ma vie. Dès qu'on vient me toucher, hop, ne me touche plus, je ressors les boules. Hop, je sors les pics. Il n'y a pas à me toucher.
Tu vois? Et je peux dire, je peux témoigner que notre Fabienne, ma Fabienne, a beaucoup changé. C'est notre Fabienne. Je t'en prie, pose ta question. Moi, ma prof, pour rejoindre ce que disait Fabienne, c'est vrai, il y a des fois, on peut déjà avoir identifié l'origine du problème et de cette distorsion, ce dysfonctionnement.
Ouais, on prie, on demande à Dieu, on verra dans les étapes qui vont venir, on demande à Dieu de guérir ça, tu vois. Il faut que tu le veuilles vraiment de tout ton cœur. Si tu le veux vraiment de tout ton cœur, que tu es prêt à abandonner ça, à lâcher ça, et que tu le fais par la foi, c'est-à-dire que quand ça va se présenter, le Saint-Esprit va te le montrer, et tu ne vas pas faire comme d'habitude, tu ne vas pas mettre le pilote automatique en route, tu vas débrancher le pilote automatique, et là tu vas faire ce qu'il faut pour ne pas faire comme d'habitude, et tu vas voir, Dieu va t'aider, et tu vas dire, waouh, combien de fois, dans l'évolution, dans le processus, j'ai vu des trucs, j'ai dit, mais waouh, c'est incroyable, parce que je me suis surpris à agir différemment. Mais ce n'est pas moi, c'est la nouvelle créature. Alors c'est moi si tu veux, mais moi reformé, tu vois. Mais donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et si on le veut vraiment, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur qui dit au Seigneur, je ne veux plus de ça. Mais qu'il y a vraiment cette notion d'haïr son péché, d'haïr ça, tu vois. Eh bien, le Saint-Esprit va te montrer. Moi, combien de fois dans la voiture, au moment où je vais sortir ce qu'il ne faut pas sortir, je vais hop. Et l'autre me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est bon, ça va. En fait, cet esprit est intervenu, il m'a fait fermer la bouche. Parce que ce que j'allais sortir n'était pas bon.
Waouh, tu le passes souvent pour ta femme.
Amen. Ça va dans les deux sens, ne vous inquiétez pas. Et que dire des familles dysfonctionnelles, là où il y a eu de la négligence, de la maltraitance, de l'abus, de l'inceste. Vous voyez, là, on part dans une coche au-dessus. Là, on était dans nos comportements, avec nos paroles, avec nos façons de nous faire du mal. Mais là, vous voyez, que dire des familles dysfonctionnelles, là où il y a eu de la négligence, de la maltraitance, de l'abus, de l'inceste. Vous voyez, là, on touche à quelque chose de plus grave encore. Et on va le voir tout à l'heure dans les statistiques. On va voir, c'est quelque chose qui est tellement répandu, tellement commun, tellement, je dirais, surtout à La Réunion, c'est encore pire qu'en métropole. Quand vous regardez les statistiques à La Réunion, vous vous dites, mais c'est affolant. Comment la puissance du péché a pu transformer les êtres humains à ce point-là pour les rendre autant dysfonctionnels que ça? Parfois, il y a de la violence physique, mais souvent, elle est davantage psychologique et émotionnelle. Et c'est à l'âge adulte que l'enfant qui aura été maltraité commencera à souffrir et, en réaction, à faire souffrir les autres. Les gens blessés blessent les gens. On est surpris, quand on connaît les histoires des gens, de voir que les gens reproduisent leur maltraitance. Ils reproduisent ce qu'ils ont subi. C'est incroyable. Alors qu'ils ont eu en horreur ça, et bien finalement, ils réagissent de la même manière. Les gens blessés blessent les gens. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, Johnny est là, mais je pourrais lui dire en particulier aussi, pour moi, dans une église, c'est important la restauration. Parce que si on ne se restaure pas, ben, c'est une église blessée qui se blesse en continu. Hein? Et donc, il faut se restaurer. Il faut avoir conscience de tout ça. Parce que sinon, on n'a pas conscience de tout ça. On a le pilote automatique et alors on se blesse. Et les églises se blessent. Et quel travail pour les pasteurs. On ne leur facilite pas la vie. Hein? On se blesse, on se blesse, on se reblesse, on se reblesse. Parce qu'on n'a pas conscience. Et où j'ai vu le pire, c'est quand on met des leaders en place qui ne sont pas restaurés. Alors ça, c'est encore plus dangereux parce qu'ils ont un ascendant sur les autres. Et alors là, il y a encore plus de blessures. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est compliqué une église. Compliqué. Il n'y a pas que l'église qui est compliquée, mais c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a pas... Les gens n'ont pas toujours cette conscience de dire, il faut que je passe par la restauration. J'ai besoin d'être restauré. Parce que j'ai une responsabilité. Une responsabilité en tant que leader, en tant que frère, sœur, j'ai une responsabilité dans l'église. Je ne suis pas là pour blesser, être blessé, sans arrêt, recommencer. On ne finit plus, Pour bien réussir cette étape, il faut regarder sans honte. On aura l'occasion la semaine prochaine de parler de la honte. Les blessures de votre enfance. Donc, notez sur votre cahier tout ce qui vous est arrivé. Là, j'en ai mis, vous pourrez retrouver sur le WhatsApp tout ça. Hein. Les humiliations, les déceptions, les trahisons, les abus, les injustices, les carences affectives, les blessures physiques, verbales, émotionnelles, les drames, les tragédies, les deuils, les pertes, les erreurs de jeunesse, les rejets, les déceptions, les jugements, le ressenti, les expériences sexuelles malsaines, les blessures essuyées, infligées, les peines d'amour. Et, bah, et la liste ne s'arrête pas là. C'est le moment de faire un grand nettoyage. Plus on va regarder à notre vie, plus on va mettre ça vraiment sur un papier et on va dire, Seigneur, maintenant je m'attends à toi. Hein? Là, on ne va pas dans la guérison, là. Hein? On va juste dans l'état des lieux. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut juste se concentrer sur tout ce que j'ai subi. Vous seul le savez. C'est votre vie. Il y a des choses cachées. Il y a des choses que vous avez honte. Il y a des choses que vous avez mis ça sur le tapis tellement c'est honteux. Et là, c'est le moment de sortir tout ça. Parce que si vous ne le faites pas, je peux vous dire que même si vous croyez que ce n'est plus là, ben c'est toujours actif. Et ça pourrit une partie de votre vie. Parfois, notre parcours est parsemé d'épisodes dominés par le mal-être, la déprime ou les carences de l'enfant. Ça semble s'amplifier exagérément. Vous devez vous pencher sur cette période de votre vie qui recèle très probablement des choses que vous préféreriez oublier et ne pas affronter. Cette étape, c'est l'occasion de mettre un processus en route afin de ne pas vivre toute sa vie avec ce passé douloureux et qui va dominer votre vie si vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, vous savez ce qui va se passer? Vous serez dépendant dans vos émotions de tout votre passé. Et votre côté impulsif, votre côté injustice, votre côté de vous énerver pour un oui, pour un non, tout ça, là, ça prend racine dans votre existence. Si vous ne le mettez pas à la lumière, vous ne changerez pas votre façon de réagir. Et vous serez toujours quelqu'un de colérique. Vous serez toujours quelqu'un qui déteste l'injustice. Vous serez toujours quelqu'un qui sera à fleur de peau. Et on ne pourra pas parler avec vous. Vous n'allez pas rendre votre époux ou votre épouse heureux. Parce que vous serez toujours à fleur de peau. Parce que vous n'avez pas été à la racine du mal. Vous n'avez pas été regarder ce qu'il faut, parce qu'il y a un travail à faire, il y a un processus pour être dégagé de tout ça et pour être quelqu'un de paisible, quelqu'un qui est en paix, quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un qui sera un plus pour guérir les autres. Amen. Trop souvent, nos problèmes proviennent d'un manque de croissance et de maturité. Prisonniers du passé, nous luttons avec l'enfant et l'adolescence en nous, incapables de grandir puisque nous sommes prisonniers de nos conduites immatures ou de nos failles mal soignées. Gardez à l'esprit qu'enfant, nous ne réglons rien puisque nous subissons les conditions de notre vie. À l'adolescence, on ne règle rien non plus parce que nous sommes davantage en réaction avec les blessures de l'enfance. Ce que nous avons tu ou n'avons pas pu exprimer durant cette période finit par se traduire dans nos comportements et dans nos actions. Vient le moment où il faut cesser d'éviter et affronter les choses du passé pour passer à autre chose. Et c'est à l'âge adulte que cela doit se faire. Et c'est le moment. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est une chance que Dieu vous offre de guérir votre passé, de nettoyer votre passé, afin que vous ayez un avenir radieux. Dieu a dit, j'ai des projets de paix pour vous, et pas des projets de malheur. Donc, ayez le courage, prenez votre courage à deux mains, regardez à votre histoire, et vous allez voir, dans les prochaines étapes, un processus va se mettre en place où le Saint-Esprit va être à l'œuvre et va vous dégager de tout ça. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça la restauration par le Seigneur. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. C'est son ordre de mission. Il est là pour ça. Et il vous aime suffisamment pour le faire. Amen. Merci, Yvonne. On a des anciens du vase restauré, parce qu'il y en a, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent, hein, parce qu'il y avait du boulot. Et ils voient le travail. Ils voient le travail. Merci, Yvonne. La restauration de notre âme, avec l'aide de Dieu, va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page de notre vie, une vie plus plaisible, plus calme, plus remplie d'amour. Nous allons montrer à nos proches que la vie avec Jésus, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un mirage, c'est un miracle.
Amen.
Amen. Un autre chemin est possible.
Alléluia.
Et personne n'est condamné à être prisonnier de son passé. Personne. Peut-être qu'on ne vous a pas fait de cadeau, que la vie ne vous a pas fait de cadeau. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans ce passé. Dieu veut autre chose pour vous. La vie éternelle, c'est maintenant qu'elle commence. C'est maintenant la vie éternelle. Être changé, être transformé pour pouvoir guérir les autres. Alléluia. Et être heureux soi-même. Heureux soi-même. N'oubliez pas les béatitudes. N'oubliez pas le premier sermon que Jésus fait, le sermon de la montagne. Relisez Matthieu 5. Heureux! Il commence par ça, parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour les bénédictions, il est venu pour nous bénir. Heureux! Ceux qui ont le cœur pur. Heureux! Ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux! Vous serez. Alors nous avons procédé sans peur. Dans sa racine latine, le verbe procéder signifie aller de l'avant. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous arrêter à ce stade de votre cheminement. Mais voilà, sur ce chemin de rétablissement, l'obstacle majeur provient de nos craintes, de nos peurs, de nos insécurités et de la procrastination. Procrastination, ça veut dire on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On n'a pas envie d'affronter la réalité, alors on dit ben, demain il fera jour. Ouais, mais demain, il y a un jour qui s'appelle demain et c'est toujours demain. Demain, on rase gratis. On rase jamais gratis parce que c'est toujours demain. Donc, prenez votre courage à demain. C'est le moment de commencer. Il y a 15 jours devant vous. Hein, parce que vendredi prochain, on reverra tous ces aspects-là, mais d'une autre manière, avec des émotions qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin. Donc, commencez dès cette semaine. Je ne sais pas comment vous le dire, mais commencez avec une page blanche. Et prévoyez peut-être un paquet de mouchoirs. Prévoyez et regardez à votre vie. C'est juste un état des lieux. Hein, allez pas trop vite. Juste un état des lieux. C'est Seigneur, voilà. Je veux affronter ma vie. Je veux confronter ma vie avec toi. Et je sais que tu vas me libérer de tous ces fantômes du passé.
Dans ce travail, il faut vraiment croire que le Saint-Esprit est avec nous.
Ouais.
Parce qu'on peut en fait faire ce travail et se retrouver dans un mal-être.
Ouais.
Parce qu'on est en train de fouiller, on est en train de chercher. L'idée, ouais, c'est pas d'aller fouiller, mais vraiment, ce qui est à notre portée, qu'on sait l'écrire.
Ouais.
Parce que c'est quand même dans le domaine de la psychologie, et vous n'êtes pas des psychologues, moi,
ouais,
un ou une là. Et il faut vraiment le faire avec l'œuvre de l'esprit,
ouais,
ce travail-là.
C'est ça.
C'est vrai, parce que tu l'as vécu. Hein.
Je l'ai vécu.
Amen. Une version différente de cette étape se lit comme suit. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral. Cette version insiste sur l'impérieuse nécessité d'être rempli de courage et de volonté tout au long du processus. Le mot courage prend sa source dans le mot cœur. Dans l'évaluation que nous faisons de notre vie, nous devons y mettre tout notre cœur et de prendre notre courage à deux mains afin de pouvoir regarder à ce que nous ne voulons pas voir, identifier ce qui nous effraie et que nous voulons garder caché, dévoiler à nos propres yeux ce qui nous fait honte, cesser de fuir ce qui nous trouble, faire le grand ménage en affrontant notre passé. Si vous avez sincèrement accompli les deux premières étapes et que vous avez pris la décision de remettre votre volonté et votre vie aux soins de Dieu, tel que vous le comprenez, alors c'est le temps de mettre ce principe en action. Amen. À la deuxième étape, nous avons donné toute notre vie à Dieu. À la troisième étape, on lui dit « Seigneur, voilà ma vie ». On en discute avec lui. On dit « Seigneur, je ne veux plus être prisonnier de ça. Je ne veux plus avoir ces dysfonctionnements-là. Tu connais, tu sais comment je réagis, tu sais comment j'agis, tu connais ma vie. Seigneur, j'en ai conscience et ça, je veux que ça change. »
Amen.
Amen.
Et ça marche.
Dieu va vous aider à trouver la force de jeter un regard minutieux sur vous-même. Voilà le prix à payer pour votre rétablissement, mais aussi pour ne pas répéter constamment les mauvaises conduites et les comportements nocifs. Pour cela, il est temps de penser à un référent dans votre vie. C'est important parce qu'on va aller vers l'étape 4. Cette année, j'ai changé un petit peu les numéros. On va aller vers l'étape 4 et vous aurez besoin d'un référent. Alors, on verra dans la prochaine étape pourquoi un référent. Mais c'est important de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous marchons avec des frères et des sœurs. Nous marchons avec le Seigneur, mais nous sommes l'Église. Et rappelez-vous, quand on a vu la première étape, j'ai insisté sur le « nous ». Nous sommes des frères et sœurs, nous. Et donc, il est important, et je vous expliquerai en détail pourquoi, on va le voir un petit peu, mais ça sera plus expliqué encore après, combien c'est important de mettre à la lumière ces choses-là. Et on le fait en avouant à quelqu'un, en parlant à quelqu'un, en le verbalisant. On le fait. Avec Dieu, on peut tout dire, mais on peut aussi revenir plus facilement en arrière. Avec un être humain, quand on prend un engagement avec quelqu'un de proche, avec qui on dit, voilà, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu sois avec moi, eh bien, ça prend une autre dimension.
Excuse-moi, et là aussi, le Saint-Esprit va vous révéler la personne qu'il faut.
Oui, en fait, on va le voir, le référent, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Hein, le référent, ce n'est pas le gars que j'ai trouvé là. Et puis, ben non. Le référent, c'est quelqu'un à qui on a confiance. Quelqu'un qui sait tenir sa langue. Hein? On verra les qualités d'un référent. Il y a des conditions. C'est quelqu'un, on sait qu'on peut lui faire confiance. On sait que cette personne-là ne va pas se servir de ce qu'on lui dit pour se retourner contre nous. Donc, vous voyez, il y a des conditions. Mais je vous expliquerai, parce que c'est peut-être la chose qui fait le plus peur, c'est d'avoir un référent dans sa vie. Mais vous avancerez jamais aussi vite que si vous avez un référent.
Et moi, l'année dernière, justement, quand on a suivi la base restaurée, quelqu'un est venu me confier.
Amen.
Et elle m'a dit, tu seras mon référent.
Amen.
Et elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté tout ouais. tout de elle, son déboire, son, ouais. tout ce qu'elle avait, elle a, son passé, son...
Les gens.
Et ça, j'ai gardé pour moi. Et bien,
bien sûr.
On a prié ensemble. Bien sûr. Toujours,
amen. 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 Mais on pourrait. Bon, c'est trop délicat pour.
Mais c'est pas pour les raconter.
Ben, bien sûr que non. Mais c'est trop délicat pour être exposé comme ça à la lumière. Mais je pourrais, si ce n'était pas le cas, là, que c'est délicat, je pourrais vous exposer des témoignages et vous verriez la puissance de pouvoir se référer à quelqu'un, la puissance de pouvoir parler à quelqu'un de ce qui nous est arrivé dans la vie. C'est incroyable comment c'est puissant. Tous ceux qui l'ont expérimenté et qui ont été au bout du processus et qui ont pu partager ça avec quelqu'un ont vécu des délivrances incroyables mais vraies, même pendant l'entretien, hein, pendant l'entretien le Saint-Esprit agit d'une manière incroyable.
Et on aime cette personne et on continue à la bénir, à prier.
La parole de Dieu nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. D'accord ? Donc c'est vraiment cette notion de référence que Jacques parle. Confessez vos péchés aux uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Hein? Souvent, les gens ont du mal avec ce verset. Et confessez vos péchés, mais les uns aux autres, c'est un petit peu plus dur. Mais pourtant, il y a quelque chose qui se passe entre deux êtres humains quand ils se confient les choses.
Parce qu'on dit aussi, ne vous confiez pas en l'homme.
Oui, mais là, c'est pas la même confiance. C'est pas la confiance que tu mets en Dieu pour ta vie.
Ouais,
Donc, ce qu'on va faire, c'est un inventaire moral minutieux. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'inventaire moral constitue un examen de conscience approfondi et véritable. Cette étape ne consiste pas à changer quoi que ce soit. Un inventaire ne change rien. Il énumère simplement les choses. C'est un simple état des lieux. Votre inventaire n'est qu'un historique des événements qui ont jalonné votre vie, votre interprétation des événements, vos sentiments et vos ressentiments, vos conduites, vos comportements. Essayez d'être le plus juste possible. Ne minimisez pas les événements ou l'impact que cela a pu avoir sur vous. Il faut comprendre exactement comment, quand, pourquoi et jusqu'où vos sombres pulsions vous ont conduit à devenir ce que vous êtes aujourd'hui et de mettre en évidence vos souffrances. Voici quelques conseils. Priez avant de commencer et demandez à Dieu de vous guider. Soyez rigoureusement honnête avec vous-même. Procédez consciencieusement et progressivement. Mettez par écrit ce que vous identifiez. Ne sombrez pas dans l'apitoiement. Prenez tout le temps nécessaire pour faire cet exercice. Amen. Pleurez ce que vous avez à pleurer. Ne réprimez pas vos émotions. Enfin, il est intéressant de faire un inventaire de nos peurs et de nos ressentiments. La raison derrière cela est que ces deux aspects de notre nature causent plus de chutes et de déboires que n'importe quelle autre émotion. Celui qui sait les identifier, les affronter, les régler, saura ainsi éviter les pièges qui jalonnent son chemin. Et donc forcément, c'est de nous-mêmes. L'inventaire, ça nous concerne. Chercher un coupable est compréhensible, mais ne vous aidera pas. Regardons à trois niveaux de responsabilité dans la vie. Souvent, quand on n'a pas cette conscience de nos responsabilités, ben, on dit toujours que c'est la faute de l'autre. On met la faute sur l'autre. Hein, c'est la faute de notre mari, c'est la faute de notre femme, de notre épouse, c'est la faute de ci, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du patron. C'est toujours la faute des autres. En réalité, ça ne change rien de penser comme ça. Tant qu'on pense comme ça, on ne regarde pas à nos problèmes. En réalité, on a trois niveaux de responsabilité dans la vie. Le premier niveau, nous ne sommes pas responsables de la façon dont nous avons commencé dans la vie, mais nous sommes responsables de comment nous allons la finir. Vous voyez ? Parce que par exemple, si on prend le vase restauré, on peut dire qu'il y a un avant et un après. Avant, vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Votre responsabilité, elle est dans la manière dont vous allez diriger votre vie maintenant. Mais vous ne pourrez plus dire que c'est la faute des autres, parce que vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ont fait. Mais vous êtes responsable maintenant des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous ont fait, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce que les autres nous ont fait. Et enfin, troisième niveau de responsable, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous font, mais nous sommes responsables de ce que nous les avons laissé nous faire. Là aussi, c'est un niveau de responsabilité où, quelquefois, on ne s'est pas rendu compte, mais on s'est laissé abuser. Alors, des fois, on nous a abusé de force. Mais
bien sûr, en tant qu'enfant.
Oui, exactement. Mais, quelquefois, on a aussi notre responsabilité dans la manière de dire à quelqu'un, et ça s'appelle la confrontation, de dire à quelqu'un, là par contre, je ne suis pas d'accord.
Oui.
De ne pas se laisser abuser. Nous ne sommes pas des serpillères. Nous ne sommes pas des gens où on va se faire marcher dessus. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut aimer tout en n'étant pas d'accord avec la personne. Et on peut continuer à aimer tout en n'étant pas d'accord avec la personne. Il y a une mauvaise interprétation quelquefois que les gens font. Puisqu'on n'est pas d'accord, alors on ne se parle plus. C'est un peu comme à la cour de récréation. Ah ben, t'es plus mon copain. Et quelquefois, c'est un petit peu resté dans la tête. Et il y a des familles qui vont se fâcher uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Et même, c'est peut-être même un devoir. Bon, des fois, il vaut mieux fermer sa bouche. Mais quelquefois, on n'est pas là pour se faire abuser d'une certaine manière. D'avoir une emprise. Quelqu'un qui est un peu pervers narcissique, par exemple, il va avoir une tendance à avoir une emprise sur la personne qui est devant elle. Ben, votre responsabilité, ce n'est pas de vous laisser faire avec un pervers narcissique. C'est de lui dire non. Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord.
J'appelle ça la bienveillance envers
oui,
soi-même.
Oui, exactement. C'est savoir se considérer, savoir se respecter et avoir de la bienveillance envers soi. Mm-hmm. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », ben, ça commence déjà par le respect que tu as de toi-même. Donc là aussi, c'est un niveau de responsabilité qui n'est pas toujours mis en valeur et en évidence, mais en fait, on n'accepte pas n'importe quoi. Donc, on a besoin de comprendre, avec tout ce qu'on a dit, hein, de ne pas tomber dans le syndrome du bisounours, que le mal est là, d'accord, et que moi aussi, j'ai des choses en moi qui ne sont pas bonnes, et tout ça doit être mis à la lumière. Accepter le monde tel qu'il est et reconnaître que seul Jésus a le pouvoir de changer ce monde et entrer avec lui dans ce processus de guérison. C'est ça important de comprendre ça parce que déjà, c'est pour accepter le fait que moi, j'ai des problèmes comme tout le monde et que c'est honnête de ma part de les amener au Seigneur. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, mais au contraire, c'est du courage, premièrement. Et deuxièmement, c'est d'accepter aussi le monde tel qu'il est, parce que dans mes relations avec les uns les autres, c'est important de comprendre que tout le monde vit avec ses dysfonctionnements. C'est une base pour comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on va s'énerver avec l'un, avec l'autre, on ne va pas comprendre pourquoi il agit comme ça, on va finir par croire qu'il nous en veut, nous, personnellement. On va mal interpréter les choses parce qu'on a... On n'a pas cette conscience, on est un peu dans ce monde de bisounours où on dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Pourquoi il agit comme ça ? Pourquoi il fait comme ça ? Pourquoi ? Alors que nous, chrétiens, on a la réponse. Parce qu'il y a le péché. Et qu'il n'est peut-être pas rentré dans ses responsabilités. Et que chacun marche à la cadence qu'il est appelé à marcher. Les gens sont malades et resteront malades tant qu'ils n'auront pas été guéris par Jésus, le seul capable de guérir les cœurs brisés. C'est une réalité. Et je remets ce verset qu'on a vu à l'étape 1, ce verset d'Isaïe, qui pour moi c'est une clé pour comprendre le monde dans lequel on est, et l'être humain, comment il fonctionne, et les êtres humains qui nous entourent. Si on ne part pas de cette conscientisation-là, alors on va louper des choses. Mais il faut comprendre que les gens... Qui ne sont pas guéris par Jésus, qui ne sont pas dans cette œuvre de restauration où Jésus est venu pour les cœurs brisés, eh bien, ces gens-là, je suis désolé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est que la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Les gens sont malades tant qu'ils n'ont pas été touchés par Jésus, tant qu'ils n'ont pas été guéris par Jésus. C'est la réalité. Et nous sommes environnés de cette réalité. Les gens qui nous entourent sont dans cet état-là. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça, je l'ai marqué un peu plus loin. Je vous dis ça parce que nous sommes appelés à exercer la miséricorde. C'est juste pour ça. Le monde est malade. Qu'est-ce que tu en veux après un malade ? Tu vas lui reprocher d'être malade ? Tu vas lui dire, parle pas comme ça. Tu es une espèce de malade. Les gens sont malades. Et c'est fondamental pour comprendre nos relations. C'est fondamental pour évoluer dans nos relations. C'est de comprendre que la personne qui est en face de toi, tant qu'elle n'a pas été touchée par Jésus pour guérir, elle est malade. C'est dur, mais c'est la réalité. Et pour nous, nous sommes en convalescence. On ne peut pas dire qu'on s'est guéri. On est en convalescence. Et chacun a son niveau. Je dis toujours que l'Église, c'est l'hôpital spirituel. Vous avez les urgences, où là, il faut vite appeler le pasteur, vite fait, parce que c'est très grave. Il y a entre question la vie et la mort. Et puis, vous avez des étages. Et quand ça va mieux, ils changent d'étage. Et puis nous, on est dans l'hôpital et on visite les malades. Et on va voir comment ils vont. Et puis nous-mêmes, on se recouche sur un lit parce qu'on est malade aussi. Et les autres viennent nous voir aussi. Okay. Regarder le monde en face, prendre notre part de responsabilité, guérir pour guérir les autres. Vous voyez, j'ai relevé deux, trois infos pour montrer dans quel monde on est. Vous le savez, mais c'est bien de le conscientiser. Il y a beaucoup de viols dans le cadre familial, commis par des pères, des frères, des proches. C'est plus rarement le fait d'étrangers. Ça, c'est la réalité. Une autre réalité, une femme violée toutes les 7 minutes en France. Voilà le monde dans lequel on vit. Vous en voulez une autre ? Un enfant sur 7 est victime de violence dans le monde du sport, selon une étude européenne publiée en 2021. Oui. Le monde est malade. Les gens sont malades. Alors, je ne dis pas que tous sont des violeurs, mais je dis qu'à un moindre niveau, eh ben, il y a des gros problèmes de communication. Les gens sont malades. Dans Marc 7, 21, Jésus l'a rappelé, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme. Tout vient du cœur. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Oui, on ne peut pas dire que la Bible ne nous éclaire pas. On est éclairé pour voir dans quel monde on vit. Et ce monde-là, c'est un défi à relever. Pourquoi ? Parce que nous, on est appelés à aimer dans ce monde-là, à aimer, à avoir des relations qui sont soignées. Donc, il y a à la fois cette conscience-là et à la fois ce défi à relever. Mais voilà dans quel rôle on est. On est dans ce défi à relever en ayant conscience que nous sommes tous malades et que nous sommes en voie de rétablissement. Et qu'il y a des gens qui ne sont même pas rentrés à l'hôpital parce qu'ils ne veulent pas. La clé de votre rétablissement est entre vos mains. Travaillez à ces zones d'ombre permet d'assumer pleinement la responsabilité de notre vie afin d'annoncer l'espoir aux autres. Concentrez-vous sur vous-même et résistez à l'idée de regarder aux défauts et aux manquements des autres. Toi, suis-moi. C'est ce que le Seigneur a dit. Toi, suis-moi. Pour réussir pleinement ce premier inventaire, il vous faudra absolument éviter le piège du déni. Le déni, la négation de notre réalité sont trois appellations du même mécanisme qui met en évidence la capacité de tous les êtres humains à refuser de voir la réalité ou accepter la vérité. Ça, c'est un piège. Quand on travaille sur soi-même, le phénomène du déni, on en a déjà parlé, mais il va intervenir. Bon, on va accélérer parce que l'heure passe. Je vais passer, vous pourrez le regarder après si vous voulez plus attentionnellement. Mais voici quelques pièges. D'abord, le piège de la négation, je nie. Refuser de voir la réalité ou simplement de ne pas l'accepter. C'est aussi un refus de la vérité malgré les évidences. C'est le carreau numéro 2. Je suis aveugle. Les autres voient mes problèmes, mais moi, je ne les vois pas. Et donc, je refuse de voir la réalité. On ne peut pas travailler. Minimiser. Minimiser consiste à diminuer l'importance de quelque chose. Par exemple, les personnes victimes d'abus, de maltraitance ou de négligence ont tendance à atténuer la gravité des gestes dont ils ont fait l'objet. Et à l'inverse, on peut aussi être tenté de minimiser ce que nous avons fait aux autres et continuer à le faire. Par exemple, avec la colère, certains ont tendance à sous-estimer l'impact de leurs paroles et de leurs gestes sur les autres. Avec l'expérience de l'abandon, certains ne verront pas l'emprise qu'ils exercent sur les autres ou le comportement d'une jalousie maladive ou encore la manifestation d'une dépendance affective. Vous voyez, tout ça a des conséquences dans nos relations les uns avec les autres. Blâmer. Le blâme consiste à, de façon générale, consiste à rejeter la responsabilité ou la faute sur quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une forme de jugement défavorable que l'on pose sur une personne en lui reprochant sa conduite ou ses agissements. C'est de sa faute. Il n'avait qu'à pas agir comme ça. Plus que tout, le blâme est la manifestation de la frustration et d'une colère refoulée. Ceux qui sont profondément fâchés cherchent davantage un coupable que la résolution des problèmes qui découlent dans ce qui leur est arrivé. C'est toujours plus facile de blâmer l'autre, toujours plus facile de dire c'est la faute des autres. Ne sois pas fâché que les autres ne soient pas ce que tu voudrais qu'ils soient, puisque toi-même tu n'as pas réussi à être ce que tu voulais. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Soyons miséricordieux. Ayons de la compassion. Le monde se portera mieux si nous avons de la miséricorde pour ce monde. Et Regardons à nous-mêmes pour nous soigner. Les autres, accompagnons-les, aimons-les. Ils sont déjà malheureux, ils sont malades. Accompagnons les autres, mais guérissons-nous nous-mêmes. Nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité à être guéris par le Seigneur. Alors saisissons l'occasion. Et ainsi, une fois guéris, ben on pourra porter secours aux autres, avoir de la compassion pour les autres, avoir de la miséricorde pour les autres, parce qu'ils sont malades. Tu comprends? Ça excuse pas tout. Mais si on n'a pas de miséricorde, ben on sera toujours en guerre. Enfin, rationaliser. Enfin, la rationalisation est un mécanisme par lequel une personne cherche à donner une explication cohérente, ou du moins acceptable, en particulier d'un point de vue moral, à des actions, attitudes ou idées qui ne le sont pas vraiment. Par exemple, voler un voleur, ben ça, c'est pas voler, parce que c'est un voleur. Très souvent, les gens tentent de justifier des gestes, des comportements, en leur donnant une raison qu'ils estiment, eux, valable. Ils peuvent se justifier devant les autres ou face à eux-mêmes. Trouver des explications pour justifier nos manquements ou des excuses pour banaliser notre responsabilité constitue une déformation de la vérité. En fait, rationaliser, c'est mentir et se mentir. En résumé, on arrive à la fin de cette étape-là. À l'étape 1, après avoir lutté avec nous-mêmes, nous avons capitulé et reconnu notre incapacité face à ce que nous vivions. À l'étape 2, en réaction à notre incapacité, nous avons pris conscience que Dieu existait et qu'il voulait et pouvait nous aider. Cette troisième étape constitue la première étape où, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous arrive ou sur Dieu, nous cherchons à découvrir et comprendre ce qui se passe en nous, ce qui nous a affectés, ce qui a affecté le déroulement de notre vie. La réussite de cette étape vous permettra de préparer le succès des étapes à venir. Travailler maintenant sur cette étape-là et mettre à jour tout ce qui ne va pas en moi, ce courage-là, et de, sans doute d'aller chercher l'information auprès des autres aussi, va amener le succès dans les prochaines étapes. En ayant approfondi votre connaissance sur vous-même pour pouvoir guérir des blessures du passé, d'affronter l'avenir avec plus de sérénité dans vos relations et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Une capacité à résister aux offenses et donc à demeurer dans la paix, quelles que soient les attaques. Ne lâchez rien. Vous progressez courageusement. Vous verrez apparaître bientôt tous les bénéfices rattachés à votre démarche. Le défi, c'est s'examiner. Et le mot-clé, c'est l'introspection. Amen.